www.radiotobaz.com. Rencontre par Marc Zisman.
Bonjour Jean-Christophe Rich.
Bonjour.
Alors Jean-Christophe Rich, toujours à la tête de votre étonnant ensemble 18-21, un peu sous-titré, on va dire, baroque nomade. On va parler un peu de ce concept, si concept il y a. Cette fois-ci avec un nouveau projet discographique baptisé Daphné sur les ailes du vent et sous-titré d'ailleurs Baroque Around the World.
Exactement.
Alors, peut-être avant de parler un peu de ce nouveau projet, c'est vrai que vous avez une manière un peu d'approcher le baroque un peu différemment à chacun de vos projets. Et ce nouveau disque, c'est une fois de plus la démonstration de ça. D'ailleurs, je me souviens quand on s'était rencontré la dernière fois, vous aviez dit « je ne peux pas proposer au public un morceau très ennuyeux sous prétexte que c'était comme ça à l'époque ». Donc c'était notamment une des petits déclics par rapport à ça. Alors, parlez-nous un peu de ce baroque nomade, et peut-être, est-ce que ce baroque nomade, il a évolué depuis que la définition que vous en aviez peut-être au début a évolué au fil des années, des projets?
Alors, vous savez, ce terme de baroque nomade, c'est un terme qui nous est venu un petit peu tout seul, à force de voir à quel point on trouvait des choses passionnantes dans cette époque 17e, 18e siècle, surtout 17e siècle, en fait. L'époque où la colonisation et les découvertes ont commencé à se répandre autour de la planète. Et des musiciens sont partis à tous les bouts du monde et ont transporté de la musique avec eux. Ils ont rencontré la musique des gens qui étaient dans les continents, les îles, etc., sur lesquels ils s'installaient. Ils s'y installaient de façon extrêmement différente, puisqu'il y a des cas où il y avait une colonisation et puis d'autres cas où il n'y en avait pas. En Chine, il n'y a pas eu de colonisation. En Amérique du Sud ou dans les Caraïbes, il y a eu l'éradication quasiment totale d'une civilisation gigantesque. Donc les situations sont extrêmement différentes. Mais ce qui est sûr, c'est que parmi ces musiciens, il y en a certains qui se sont pris de passion pour les musiques qu'ils rencontraient, qui les ont étudiées, qui les ont apprises, qui les ont jouées de mieux en mieux, et qui ont envoyé en Europe toutes sortes d'informations sur les musiques des gens qu'ils rencontraient, avec cette espèce de notion d'altérité et de situations d'échange que je trouve tout à fait admirable. Alors, il y en a qui étaient des crétins bouchés et qui disaient « la musique des indigènes, c'est nul ». C'est pas forcément ceux-là dont on va travailler les œuvres, parce qu'heureusement, ils n'étaient pas tous comme ça. Et il y en a d'autres, au contraire, qui disent « voilà, les Abyssins en Éthiopie, c'est les meilleurs musiciens que j'ai jamais rencontrés. On leur donne des motets romains du XVIIe siècle et ils chantent ça très très bien, aussi bien que ce qu'on entend à Rome. Et puis leur musique est formidable ». Donc, évidemment, on s'intéresse plus aux gens qui ont eu cette attitude-là. Et puis, nous, ça nous donne le prétexte pour faire physiquement des voyages et pour rencontrer des musiciens des pays qui, à l'époque, ont été, entre guillemets, découverts par les Européens et de se mettre avec eux dans une pièce avec nos instruments de musique et de voir ce que ça donne. Par exemple, on a travaillé avec des Éthiopiens et on a joué ensemble et on s'est dit que une situation analogue à ce qui s'était passé au XVIIe siècle allait donner des résultats analogues. Et c'est vrai que la fluidité a été incroyable. C'est des musiciens formidables qui se sont mis à jouer la folia de Maramaré avec nous complètement spontanément, sans même qu'on leur dise « tu veux pas essayer ». On a commencé à jouer, ils se sont mis avec nous et c'est parti et on a joué toute la nuit ensemble. Donc le baroque nomade, c'est ça. C'est à la fois travailler des sources anciennes qui sont des sources qui racontent la rencontre à l'époque et des rencontres ici et maintenant avec des musiciens du 21e siècle.
Est-ce que, excusez-moi de vous couper, mais est-ce qu'il y a eu aussi par rapport à ça, même si évidemment c'était une volonté artistique, une démarche artistique choisie, etc. C'est vrai qu'on est un peu loin de la période, j'allais dire, radicale de la reconstitution du baroque il y a quelques années. Il y a vraiment une volonté autre. Est-ce que, bon, je sais que vous, à titre personnel, vous avez toujours été, on va dire, vos oreilles ont toujours été ouvertes aux musiques du monde, comme on les appelle communément. Oui. Donc c'est pas quelque chose que vous avez tout soudainement découvert après avoir étudié Charpentier, puis soudain vous avez entendu. Mais est-ce qu'il y a aussi, par rapport à ça, la façon dont le baroque était traité il y a quelques années, cette radicalité, une vision vraiment différente, voire opposée ou...
Alors, je vais vous répondre de façon un petit peu contradictoire. Je suis totalement dans cette radicalité. Et je pense justement que les musiques de tradition orale nous permettent de faire un pas de plus dans la radicalité en question. La musique au XVIIe siècle était une musique où la tradition orale était complètement prépondérante. Et le fait de côtoyer des musiciens qui sont à fond dans cette tradition orale ou qui sont, comme en Chine ou en Inde, dans une situation à mi-chemin entre l'oralité et l'écrit, ça nous permet d'être à côté de musiciens qui sont quasiment des musiciens du XVIIe siècle, d'une certaine façon. Ou en tout cas qui ont la même dialectique entre l'écrit et l'oral que ce qui était en cours en Europe au XVIIe siècle. Et donc c'est complètement passionnant d'être avec un musicien chinois qui te dit ben oui, mais je sais bien que c'est écrit comme ça, mais la tradition nous a appris que ça se joue pas comme ça, et donc ce qui est prépondérant, c'est la tradition. Et donc, pour comprendre les sources anciennes écrites, les traités, etc., tous les machins musicologiques qui pourraient être très ennuyeux, on a besoin de recréer une tradition. Et les générations de musiciens qui interprètent la musique baroque ont passé, donc peu à peu, on a recréé une tradition ou des traditions. On joue comme nos maîtres nous ont appris, ce qui est quand même très important, pas jouer uniquement comme on a lu, mais comme on a entendu. Et pour moi, c'est beaucoup plus intéressant d'avoir une couleur orale, d'avoir une imprégnation d'un style qu'on a acquis, qu'on a bu à notre biberon, même si ce n'est pas exactement le style de l'époque. Il vaut mieux un style marqué que pas de style du tout. Je vous donne un exemple. Quand on a enregistré dans notre dernier disque Codex Caioni, une bergamasque, donc vénitienne du XVIIe siècle, on l'a enregistré avec des musiciens roumains. Et ces musiciens roumains, ils ont joué comme des roumains. Ils ont joué avec une certaine façon, un certain swing, qui est vraiment typiquement d'Europe centrale ou d'Europe orientale. Et on sait que ce style a été importé d'Italie au XVIIe siècle. Alors ça a certainement subi toutes sortes d'influences depuis. Mais pour moi, on est plus proche d'Uccellini avec des Roumains qui viennent de leur village qu'en prenant des traités et avec toutes nos études de conservatoire, aussi pointues soient-elles. Donc la radicalité, elle comporte pour moi l'utilisation des traditions orales.
Est-ce que vous trouvez à la croisée un peu de chemin, j'allais dire, il y a le musicien, il y a un peu le musicologue, et aussi d'une certaine manière, puisqu'il y a quand même des zones d'ombre, voire inexistantes, de compositeurs. Donc vous êtes un peu, et puis il y a l'aspect en plus, on pourrait mettre un peu un côté folklorique, parce que d'Indiana Jones, de découvreur, d'arriver, ça se passe aux quatre coins du monde, on fait des découvertes, des rencontres, un peu tout ça, quoi, une sorte de grand...
Alors, il y a des esprits taquins qui m'ont effectivement surnommé Indiana Jones de la musique baroque. On a même discuté ces derniers jours, à 18-21, si on pouvait se permettre de mettre ça dans ma biographie ou si ça faisait un peu trop déjanté quand même. Ça, c'est une question marketing, parce ouais. Qu'au fond, la vraie question, c'est pas ça.
Mais dans l'esprit, c'est justement cet aspect-là. Évidemment, il y a tout l'aspect que vous venez de décrire, mais cet aspect justement un peu mystérieux, sans frontières, que ça soit dans le temps, dans les pays, tout ça, qui ajoute au musicien que vous êtes à la base. Vous êtes
c'est
un musicien
sûr que
quand
ça
même,
me passionne. C'est... Oui, c'est sûr que ça me passionne. J'adore jouer avec des Éthiopiens, des Chinois ou des Turcs. J'ai l'impression d'apprendre mon métier avec eux, j'ai l'impression de comprendre la musique, j'ai l'impression de comprendre l'homme. C'est aussi certainement une démarche humaniste, je dis ça avec beaucoup d'humilité parce qu'on a un tellement petit pouvoir avec la musique. Mais c'est sûr que là, je suis en train de créer un orchestre baroque des Balkans avec des musiciens serbes, croates, bulgares, roumains, grecs, macédoniens, etc. Ça fait des siècles que c'est la guerre dans les Balkans. Si on peut créer un orchestre baroque avec tous ces musiciens-là, c'est un symbole. Donc il y a tout ça, il y a le côté on fait des projets fous et on rencontre des gens géniaux. Tout ça à la fois. Et la musicologie est toujours présente parce que moi, je ne saurais pas faire des projets où on se dit, tiens, on va mettre dans une même marmite, je ne sais pas, Shostakovich et les Beatles, et puis on va mélanger, et puis on va faire Shostakovich et les Beatles. Ça, je ne sais pas le faire. Je ne sais le faire tous ces projets-là que s'il y a une réalité historique, s'il y a un sens, si je trouve des sources qui me racontent qu'à l'époque, il y a des musiciens qui ont été à la rencontre de tels autres. Alors, par exemple, on pourrait travailler sur des touches au Siam, parce que des touches est allé en Thaïlande et il s'est passé des choses là-bas. Donc là, il y a un sens à faire quelque chose. Mais donc, la musicologie est toujours présente. D'un autre côté, moi, je ne suis pas musicologue. Moi, je suis résolument saltimbanque. Donc, mon rôle, c'est de mettre sur scène le résultat des travaux des musicologues. Donc, plutôt, je travaille avec des musicologues qui, eux, ont la patience d'aller dans la bibliothèque à Manille ou à Kuala Lumpur et d'aller chercher des archives. Et c'est souvent très, très long, très, très fastidieux. Il fait très chaud, comme dans ce studio. et donc, eux ont la patience de le faire. Moi, non, je n'ai pas le temps. Il faut que les projets se réalisent dans un temps raisonnable. Et donc, je mets en pratique les résultats des recherches des musicologues, plutôt.
Comment tout ça impacte votre le musicien que vous êtes, c'est-à-dire c'est une sorte de finalement vous êtes un musicien, c'est une sorte de work in progress, ça s'arrête jamais, c'est par rapport aux certitudes qu'on peut avoir à certains moments de sa vie par rapport à la musique, par rapport à est-ce qu'il y a des chamboulements à titre personnel, des choses qui sont où finalement c'est un flot permanent, il n'y a jamais vraiment de fin et c'est une.
Vous savez, peut-être que je ne devrais pas dire ça. Là encore, en termes de marketing, ce n'est sûrement pas très bon, mais je suis rongé par les doutes en permanence. C'est-à-dire que je voudrais toujours recommencer le disque qu'on vient de faire parce que j'ai trouvé une nouvelle idée. Je trouve que ça, ce n'était pas parfait. On pouvait faire ça mieux, etc. Donc, et les rencontres avec d'autres musiciens, ça nous permet d'ouvrir des portes tout le temps, d'avoir d'autres idées. Avoir travaillé avec des musiciens du Moyen-Orient sur les makams du monde arabo-persan, ça donne une finesse de travail de la justesse qui est super intéressante. Et après, quand on réfléchit sur les tempéraments baroques, on se dit que, ben oui, eux, ils ont une finesse d'écoute que nous, on peut acquérir. Et on apprend des choses comme ça aussi. Ou bien avec des musiciens turcs, l'année dernière, on s'est retrouvé à jouer de la musique à 7 temps à une vitesse délirante. Ils croyaient vraiment qu'on n'y arriverait pas. C'était une sorte de défi qu'ils nous posaient comme ça. Et puis on a travaillé, puis on y est arrivé. Ils étaient un peu bluffés. Mais en tant que baroqueux, jouer à 7 ans, ça ne nous arrive jamais. Donc on apprend des nouvelles choses, on ouvre des nouvelles portes. Oui, oui, c'est work in progress, c'est sûr. On n'arrête jamais, on recommence encore et on cherche de nouvelles possibilités. Et on en trouve surtout.
C'est votre carburant finalement. C'est ce qui aussi vous fait avancer. C'est une sorte d'oxygène pour le musicien que vous êtes, flûtiste, je le rappelle, parce que je ne l'ai pas dit.
Oui, c'est un des carburants. Il y a d'autres carburants, c'est les autres carburants, c'est la littérature, c'est les sources anciennes, il y a plein de choses qui nous nourrissent et qui nous donnent des idées. Et vous parliez tout à l'heure de composition. Oui, il y a une part dans ce que je fais. Il y a énormément des manuscrits qu'on trouve qui sont très incomplets, donc il faut recomposer les parties manquantes. Donc, je me sens pas dans le rôle vraiment d'un compositeur, mais plutôt dans celui d'un maître de chapelle de l'époque qui se retrouvait dans sa chapelle. Il avait 2 trombones, 3 ténors, un soprano qui chantait pas très bien et 2 violonistes médiocres. Et il fallait écrire la musique pour ça. Alors moi, j'ai de la chance, j'ai des interprètes géniaux. Et donc, je vais adapter la musique qu'on trouve à ceux qui sont là et avec lesquels on va jouer. Et ça se faisait couramment. Et ça aussi, ça me semble être une chose très... puriste, j'allais dire, et on est puriste dans le sens où on réécrit les choses. Donc ça aussi, c'est paradoxal. Mais le côté pied de la lettre, ça, c'est une chose qui était complètement étrangère à l'esthétique des musiciens du XVIIe siècle. On était en perpétuelle réinvention. Et cette réinvention de la musique du XVIIe siècle me paraît une démarche radicale, plus proche de ce qu'ils faisaient que ceux qui ont voulu se contenter de ce qui était strictement sur les partitions. Parce qu'on ne se contentait pas des partitions à l'époque, on les réinventait en permanence, et c'est ce que j'ai envie de faire.
Alors ce nouveau projet, Daphné sur les ailes du vent, alors le périple est impressionnant puisqu'on part de Venise, ensuite c'est l'Angleterre, les Appalaches, le Mexique, les Philippines, la Chine, le Bengale, l'Abyssinie, Istanbul et donc retour à la case départ à Venise. Alors la question est un peu bateau mais la réponse sera sans doute intéressante. Quelle est l'origine de ce projet ?
Alors l'origine du projet, c'est que dans toutes ces régions du monde, on a trouvé des musiques passionnantes. Et dans beaucoup d'endroits, il n'y a pas de musique en quantité suffisante pour pouvoir faire un programme entier. Par exemple, en Éthiopie, on a très peu de musique. Aux Philippines, on a un manuscrit de 18 pièces, mais il y en a seulement 3 ou 4 qui sont bonnes. Les autres sont vraiment pas très intéressantes, etc. Donc, j'ai eu l'idée de faire une sorte de roman historique musical avec un personnage fictif, qui est donc cette Daphné, qui va faire un voyage qui est purement imaginaire, mais dont les étapes sont existantes. L'étape d'Amérique du Nord, l'étape du Mexique, l'étape des Philippines, ça s'est vraiment passé comme ça. Le personnage central, Daphné, qui est personnalisé donc par Cyril Gerstenhaber, chanteuse géniale, chacune des étapes est réelle, et cette femme va voyager et observer ce qui se passe dans tous ces endroits. Et pour nous, c'était important aussi de raconter le voyage du point de vue d'une femme. On a extrêmement peu de relations de voyage écrites par des femmes.
Je reviens justement à ce point de départ, parce que c'est une fois que le plan de route est fait, après il faut voyager, certes, il faut construire, mais le point de départ, ça, vous avez effectivement ces fragments qui sont concrets, et après l'assemblage de ça, comment se fait la narration, parce qu'il y a un côté, il y a l'aspect de romancier, vous l'avez dit vous-même, c'est un roman musical, donc vous avez des personnages, vous dites ça va se passer là, là et là, il y a ces pièces, comment on enclenche un peu le mot est peut-être pas très ouf, le processus, mais comment on assemble, comment on décide de construire une narration qui en plus ne sera pas juste écrite mais sera musicale?
Alors d'abord on rêve un peu, on essaie de donner corps au personnage, on lui imagine un tempérament, elle est enflammée, elle est amoureuse, elle est révoltée, elle refuse la situation des femmes à Venise qui était en gros celle d'être obligatoirement des courtisanes, donc elle va partir à cause de ça. Où est-ce qu'elle va? Elle va d'abord en Flandre et puis on imagine les étapes, qui est-ce qu'elle aurait pu rencontrer, qu'est-ce que ça a pu... C'est certainement, d'une certaine façon, un travail de romancier. Et puis, la chose est facilitée par le fait qu'on a vous parliez de fragments, mais on a beaucoup, beaucoup de musique. Mmh. Donc on fait un tri, on se dit, oui, ça on va le mettre, ça on va le garder pour une autre fois, pour un autre projet. On n'a pas tout mis dans ce disque. On a mis beaucoup de choses, mais on en a encore cinq fois autant qu'on pourrait mettre dans des prochains projets. On le fera peut-être un jour. On se laisse guider comme un romancier pour raconter cette histoire, qui elle a rencontré, qui était ce Tobias Hume qu'elle va rencontrer en Angleterre. Qu'est-ce qui se passait dans les Appalaches? Comment ça se fait que dans les Appalaches, on a conservé la musique des îles britanniques alors qu'elle a disparu dans ces îles-là maintenant? Qu'est-ce qui s'est passé au Mexique? Qu'est-ce qui s'est passé quand elle a pu rencontrer des Africains, esclaves? Quel était le regard des Européens sur la musique des Africains, etc. Et puis, on regarde aussi quelle était la navigation. Donc, physiquement, qu'est-ce qui était possible? On essaie d'être relativement réaliste. Les bateaux ne traversaient pas le Mexique à dos d'homme. Qu'est-ce qui arrivait? Qu'est-ce qui se passait à Manille? Manille, les Philippines, c'était, j'ai l'habitude de dire, une colonie mexicaine et pas une colonie espagnole, puisque c'est les bateaux mexicains qui partaient d'Acapulco et qui allaient à Manille. Donc, c'est, à l'époque, c'était la Nouvelle-Espagne. Ensuite, il y a eu une sécession du Mexique. Et donc, en réalité, ce sont ce qu'on appellerait maintenant des Mexicains qui ont colonisé les Philippines. Ce qui peut expliquer qu'on entende des airs qui sont très mariakis aux Philippines. Toutes sortes de choses comme ça. Donc on cherche, on raconte les histoires, on imagine des personnages. Alors il y a un autre personnage dans notre voyage qui est un missionnaire voyageur, un religieux qui est en quête d'une sorte de spiritualité universelle. Et ça a été assez frappant chez les jésuites, en particulier à l'époque, qu'ils ont cherché une spiritualité qui allait au-delà de la spiritualité chrétienne. Ils ont souvent bien compris que la religion était une convention, d'une certaine façon, où ils ont réfléchi à cette idée, en tout cas, à défaut de l'avoir compris. Et ils se sont dit que les autres religions qu'on rencontrait en Chine ou ailleurs étaient des religions qui étaient sérieuses, profondes, qui expliquaient aussi des choses essentielles. Et donc, il y a des sortes de quêtes comme ça. Donc, on construit un voyage. Et cette femme, Daphné, qui va revenir à sa ville natale, Venise, à la fin de sa vie, puisque les voyages étaient longs. Elle revient avec un bagage énorme qu'elle va confronter avec l'évolution qui s'est passée pendant ce temps-là à Venise. Venise n'est pas restée immobile pendant, je ne sais pas, 40 ans. On réfléchit à tout ce qui peut se passer, comment on va raconter tout ça.
de tous ces fragments que vous avez gardés, etc. Est-ce qu'il, je ne vais pas vous demander une sorte de chronologie, mais est-ce que certains, quand même, sur la valeur musicale, etc., il y en a qui vous ont vraiment plus marqué que d'autres et qui vous ont vraiment étonné par leur richesse?
Beaucoup, beaucoup. Mmh. Je ne sais pas, une des dernières pièces du disque, c'est Zaïda Turca, Zaïda la Turque, de Luigi Rossi, donc compositeur romain du milieu du XVIIe siècle. C'est un vrai petit chef-d'œuvre, c'est ce qu'on appellerait un mélodrame. Donc, c'est la lamentation d'une Turque qui s'appelle Zaïd, qui est sur le rivage et qui voit s'éloigner au loin les voiles d'un bateau qui emporte son amant, Mustapha, en esclavage. Et donc elle se lamente, elle va aller très loin, elle va aller jusqu'au blasphème, elle est tout de suite punie par une punition divine. Et on découvre dans les derniers vers que c'est le pirate qui raconte l'histoire, ce qui est une sorte de mise en abîme très étonnante. Le pirate raconte l'histoire et de cette musulmane turque qui voit partir son propre bateau. Et ça, c'est un questionnement important, c'est un questionnement sur est-ce que j'avais le droit d'emporter cet homme en esclavage? Est-ce que nous, les Européens, nous, les chrétiens, nous, les Occidentaux, est-ce qu'on a le droit de faire ce genre de choses? La musique est géniale, le sujet est important, le sujet est sérieux. Mmh. Donc, c'est des œuvres qu'on a envie d'interpréter avec passion. Mais je pourrais dire la même chose quasiment de chacune de toutes. Mais il y en a qui sont sur des registres très différents. Il y en a qui sont profondes et sublimes. Il y en a d'autres qui sont drôles et entraînantes. Quand on joue avec Jonathan Dunford, violiste formidable, mais quand il prend son banjo et qu'il nous chante avec Sherman de la musique des Appalaches, on est dans un ranch ou on est dans un saloon. On part à la conquête de l'Ouest et on est dans un tout autre univers. Il y a des choses incroyablement diverses et contrastées dans ce disque. Je vois déjà messieurs et mesdames de la critique trouver ça disparate et incohérent. Mmh. Pour nous, ça ne l'est pas du tout, parce qu'il y a une nécessité de mettre chaque morceau derrière le précédent. Mais il y a une variété assez incroyable.
Oui, et surtout, je pense qu'il y a une unité, malgré tout, au fil des projets. Celui-ci en particulier, je trouvais assez impressionnant, justement, par ce côté réussir, qui n'est pas juste un collage, pas juste une compile, pour prendre un mot qu'on utilise, on va dire, actuellement, mais véritablement un voyage et qui fait passer effectivement de continents et de compositeurs vraiment différents. Alors, peut-être, bon, il y a ce personnage de Daphné qui aide à l'unité, ce sort de fil d'Ariane. Il y a aussi, surtout, les interprètes, les musiciens et les voix de ce projet, de ce disque. Comment vous travaillez tous ensemble? Est-ce qu'il y a vraiment un aspect, il y a des phases collectives? Est-ce qu'il y a des choses qui sont vraiment très, très, très préparées à l'avance? Est-ce qu'il y a des révélations au moment de l'enregistrement, des choses qui évoluent? Comment se conçoit concrètement un projet comme ça?
J'ai du mal là aussi à répondre en quelques mots. Il y a des musiciens qui sont très proches de moi, Cyril Gerstenhaber dont j'ai parlé. Pour tout vous dire, c'est ma femme. Donc, c'est pas un secret, tout le monde le sait. Donc, évidemment, il y a une élaboration commune qui se fait, je sais pas, au petit déjeuner. On se dit, tiens, j'ai cette idée-là, qu'est-ce que t'en penses? Et puis, on mature les choses ensemble. Mais il y a d'autres musiciens... je ne sais pas, Emmanuel Guigue, violiste, Rémi Cassen, théorbiste, ou Marc Dupuis, claveciniste. On est très souvent en tournée ensemble sur d'autres programmes, donc on est dans le train, on prend une partition, on dit, voilà, on pourrait faire ça. Et puis l'un ou l'autre a découvert au fur et à mesure de ses recherches telle œuvre, donc il me l'apporte, il me dit, ça ne t'intéresserait pas, tu ne voudrais pas qu'on fasse ça. Donc il y a un côté très collectif dans ce travail-là, et c'est nécessaire parce que c'est pas des projets qui pourraient sortir ex machina du cerveau d'une seule personne, quoi. C'est vraiment une maturation longue. Il y a pas mal de ces pièces qu'on a jouées en concert depuis des années, donc qui ont eu le temps de se préparer avec les musiciens chinois, Wang Weiping ou Chokelong. On se côtoie depuis 15 ans maintenant. On a vraiment beaucoup l'habitude de jouer ensemble. Les deux pièces qu'on a enregistrées, on les a jouées en concert de très nombreuses fois. Donc les choses vont relativement lentement. Et ça, c'est un point commun avec les musiques de tradition orale. Les musiques de tradition orale ont besoin d'un long temps de maturation. C'est pas on répète pendant 2 jours et hop, vas-y, on enregistre. Il faut créer sa propre légitimité, sa propre version de la pièce. Et donc, c'est lent. Et j'apprécie cette lenteur. Et j'apprécie beaucoup que tous les musiciens avec lesquels je joue, les chanteurs, soient aussi une force de proposition. Je vous donne un exemple. Dans le disque Daphné, là, il y a une pièce mexicaine de Durón, compositeur espagnol, très intéressant. Et c'est ce qu'on appelle une negrilla. Une negrilla, c'est une sorte de villancico parodique à l'imitation des nègres. Et j'emploie à dessein ce terme raciste parce que c'était vraiment conçu comme ça. Et ce qui est frappant, c'est que c'est une pièce satirique qui tourne en dérision les Africains, et on ne peut pas ne pas voir à travers la fascination des Européens pour la musique, le rythme, etc. des Africains. C'est-à-dire qu'on voit qu'ils ont été complètement séduits par la sensualité africaine et ils n'arrivent même pas à le cacher, même en essayant de tourner les Noirs en dérision. Ils ont aimé ça, les hommes ont aimé les femmes noires, ça se voit dans cette musique, ça s'entend dans cette musique. Et quand on l'a enregistré, il y avait avec nous un chanteur antillais, Jean-Loup Pagési, une basse avec une voix exceptionnelle vraiment, et il a commencé à faire le rigolo à un moment pendant l'enregistrement, à faire des bruits de singe, à faire des clichés de blague raciste, et lui, s'il y a bien une personne qui peut se le faire, qui peut se le permettre, c'est lui. Et tout d'un coup, on a pris une autodérision qui a donné tout son sens à la pièce. Et ça, ça s'est fait pendant l'enregistrement. C'était pas prévu. Donc, des fois, c'est une longue maturation, et puis d'autres fois, il y a un déclic qui se passe à un moment, et toc, on part complètement ailleurs. On a même laissé dans l'enregistrement, dans le disque, dans le montage, on a laissé des moments où quelqu'un parle. Il dit... je sais pas, vas-y, commence. Et puis, on a laissé ça dans le... Évidemment, au montage, on aurait pu le couper, mais on a décidé de le garder parce que ça s'est fait spontanément. On s'est dit, voilà, ça fait partie de ce qu'on a gardé.
Il y a un autre pays, un autre continent où se promène ce type de projet, c'est la scène. Vous l'avez dit vous-même, la scène ou même certaines pièces, vous les jouiez depuis longtemps. Effectivement, c'est une musique, ce sont des projets qui semble complètement destiné à ça, même si évidemment le disque, l'enregistrement, c'est une chose différente. Est-ce que pour vous, c'est l'un est la suite de l'autre, l'un est avant l'autre, c'est une globalité aussi? On a besoin aussi d'amener ça au public parce qu'il y a aussi un aspect visuel à cette musique.
Alors il y a un aspect visuel très évidemment. On est en plein en ce moment dans les répétitions du spectacle de Daphné, qui va être créé à l'URE au Festival Musique et Mémoire, qui est un festival que j'aime beaucoup, avec lequel on travaille depuis plusieurs années, le 23 juillet. Donc on est en plein dedans en ce moment. On construit les décors, on va avoir des voiles sur scène, on va avoir des montgolfières, toutes sortes d'éléments qui évoquent le voyage. On travaille aussi avec un jongleur. Donc c'est sûr qu'il y a un aspect visuel. Mais pour moi, le produit spectacle et le produit disque, et encore une fois, je prends ces termes très marketing un peu à dessein parce que c'est pas du tout des produits, chacun est une passion différente. C'est pas la même chose. On n'a pas les mêmes contraintes et les mêmes objectifs quand on est sur scène ou quand on enregistre. Il y a des musiques parfois qu'on met sur scène et qu'on ne met pas dans le disque, et des musiques qu'on met dans le disque et qu'on ne met pas sur scène parce que ça se justifie pas de la même façon. Les gens n'écoutent pas de la même façon. Quand on est au concert, c'est rare qu'on fasse autre chose en même temps, donc on peut tenir compte de ça. Souvent, les mélomanes écoutent la musique chez eux sur un disque ou sur un autre support maintenant, de façon très différente de celle qu'on a au concert où on s'assoit pendant 2 heures sans bouger. Donc ça a toutes sortes d'incidences sur la construction. Donc il y a des enchaînements qui marchent au concert et qui ne marchent pas au disque parce qu'au disque ça va être trop abrupt. En revanche, il y a des longueurs qui ne marchent pas au disque et qui marchent au concert parce qu'on voit quelque chose qui se passe. Donc c'est pas la même chose, c'est une autre conception et l'un se nourrit de l'autre, mais on ne peut pas recopier tout simplement.
Oh.
comment vous voyez un peu actuellement pour ce genre de projet qui demande un investissement, qui demande sur le temps, sur la durée, que ce soit en termes d'enregistrement, en spectacle, un peu la crise du disque actuellement, comment on voit également par rapport à ça la musique du spectacle vivant, et aussi une chose qui voyage énormément, c'est la musique avec sa dématérialisation, les fichiers MP3, etc., des gens qui se retrouvent avec des disques durs, avec encore plus de musique que leurs parents ou leurs grands-parents. Quelle réflexion vous avez, vous, en tant que musicien, en tant que mélomane, ou en tant, pour reprendre un mot, comme produit, comme consommateur ?
Alors, je ne suis pas un grand consommateur de musique, parce que malheureusement, il y a une chose que je ne sais pas très bien faire, c'est écouter de la musique en faisant autre chose. Donc, si j'écoute de la musique, c'est sans doute une sorte de déformation professionnelle, je m'arrête et je me mets dans un fauteuil et j'écoute. Du coup, comme je n'ai pas le temps, j'en écoute finalement assez peu. J'ai l'impression que la révolution qui est en train de se passer avec ce passage au numérique est en train de nous dépasser complètement, comme toutes les révolutions. Donc ce que je dis là, c'est vraiment un lieu commun. On ne sait pas comment ça va être et on ne sait pas comment la musique classique va se retrouver par rapport à ça. En tout cas, ce que je trouve pour moi très intéressant, c'est qu'on est en train de bouleverser les formats. En gros, un disque, jusque-là, ça devait durer 60 ou 70 minutes et ça n'était commercialisable, en tout cas dans le classique, que sous la forme 60 à 70 minutes. Avec la disparition progressive du support physique, si elle arrive, parce que ça ne paraît pas encore complètement sûr, peut-être que les deux vont, en tout cas pendant assez longtemps, cohabiter. On ne sait pas. Bien malin qui saurait le dire là maintenant. Mais ce qui est sûr, c'est que la dématérialisation permet d'envisager un projet musical qui va durer 14 minutes ou 36 et qui aura un sens parce que l'œuvre qu'on enregistre, elle dure 14 ou 36 minutes. Mais ça permet aussi de toutes sortes d'autres choses, justement par rapport à l'image. Je pense que de plus en plus, l'image va jouer un rôle par rapport à la musique qu'on fait. Ça me paraît vraiment passionnant, parce que voir la musique, c'est quand même essentiel. La musique, ça s'écoute avec les yeux aussi. C'est très important de voir les musiciens jouer, et je trouve ça, là aussi, tout à fait intéressant pour la musique baroque, parce que la musique baroque, c'était une musique qui était destinée à un cercle restreint. Dans le salon de Louis XIV, où il écoutait Marin Marais au Couperin, il y avait peu de personnes qui voyaient les mains du musicien sur sa viole ou sur son clavier, qui les voyaient jouer de près, qui voyaient les échanges de regards. Et ça, c'est quelque chose que tout d'un coup, on peut avoir de nouveau facilement avec l'image qui peut être associée à la musique. Donc, moi, ça me passionne complètement. J'espère que pour nous, ça va pouvoir se développer. Alors, c'est compliqué, c'est cher, ça pose toutes sortes de problèmes, mais c'est vraiment une perspective que je trouve super.
Pour conclure notre entrevue, Jean-Christophe Riche, ce projet Daphné sur les ailes du vent, qu'est-ce qui, par rapport à vos projets précédents, qu'est-ce qui vous a apporté par rapport à tout ce que vous avez fait? Quelle est sa spécificité sur vous, à titre personnel, en tant que musicien ou dans les rencontres?
Alors, d'une certaine façon, j'ai voulu faire un projet qui soit une sorte de somme de ce que j'avais fait depuis pas loin de 10 ans avec le Baroque Nomade maintenant. Donc j'ai voulu montrer un petit peu une boucle. Et c'est pour ça aussi que ce voyage est une boucle, et de dire que voilà, d'une certaine façon, je suis revenu à mon point de départ et il va falloir maintenant que j'aille dans d'autres directions. Donc c'est
contraint et forcé ou
non, mais pas contraint et forcé, mais dans la recherche d'un musicien, et pas seulement d'un musicien, il y a des cycles, il y a des étapes. Là, je vais passer à un autre cycle. C'est pour ça que je crée cet orchestre baroque des Balkans, Balkan Baroque Band, qui va lui jouer du répertoire et pas du tout de la musique exotique. On va jouer du Lully, du Mozart et du Vivaldi et du Bach, et des compositeurs des Balkans aussi, mais qui sont des compositeurs, j'allais dire, de musique normale, ni turque, ni éthiopienne, ni chinoise. Et puis, dans une autre direction complètement opposée, je vais aller presque plus vers la world music, c'est-à-dire, en particulier là, avec nos musiciens éthiopiens, on va travailler sur des concerts sonorisés, amplifiés, avec des lumières vertes et bleues et rouges, et du brouillard sur scène. Parce que... c'est pas que j'ai fait le tour, c'est que ce Baroque Nomade, il va se construire d'autres façons maintenant, avec des rencontres avec d'autres musiciens. Et donc, je voulais exprimer le fait que voilà, ce cycle-là est arrivé quelque part et que maintenant il y a d'autres directions. Alors je vais travailler sur des projets beaucoup plus conceptuels ou abstraits. Je prépare un projet sur la folie. Donc les relations de la musique et la folie, aussi bien la musique utilisée dans le passé ou dans d'autres cultures pour soigner les fous, avec le sens le plus général de ça, la musique qui rend fou, ou la musique qui exprime la situation de folie, qui met en scène des fous. Ça, c'est un sujet qui n'est pas un sujet musicologique, c'est un sujet plutôt philosophique. Ça, c'est aussi le genre de choses qui m'intéresse.
Genre du Foucault, donc.
Voilà.
Notamment.
Erasme va peut-être passer par là aussi.
Bon, en tout cas, on vous souhaite bon voyage, Jean-Christophe Rich. Je rappelle donc le titre de ce nouveau projet, Daphné sur les ailes du vent. Merci.
Merci, au revoir.
Rencontre par Marc Zisman.